affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, merci de votre fidélité. Vous souvenez-vous de l'année 1997? Vous souvenez-vous de la France de 1997? Si vous avez des trous de mémoire, alors notre émission de ce jour va y remédier. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Marc Lambron, qui a publié récemment le journal qu'il a tenu précisément en cette année 1997. Cette année-là, peut-être est-ce pour cela, Marc Lambron a eu 40 ans. 40 ans, c'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage. Il publiait 1941, un roman très documenté sur Vichy et la collaboration. C'est une année durant laquelle il a surtout donc tenu avec beaucoup d'assiduité un journal où se mêlent l'intime et le public. Un journal, j'allais dire, boulimique, où l'on sent sa volonté de retenir la vie, de l'observer, de la décrire, de s'en nourrir. J'allais préciser, Marc Lambron est désormais académicien français. Il est également conseiller d'État, journaliste, autant de qualités qui permettent justement de se saisir de ce réel, d'en faire un instantané, mais qui va nous obliger, nous, à remettre les choses en perspective, à faire des allers-retours entre cette France de 1997 et la France de 2017, essayer d'y trouver des contrastes, une évolution, et finalement de découvrir que cet instantané nous en apprend probablement aussi beaucoup sur l'instant présent. Marc Lambron, merci d'être parmi nous.
Merci, bonjour. En plus, vous venez de me donner le titre de mon prochain livre, parce que « Retiens la vie », c'est très bien. C'est pas « Retiens la nuit », la chanson de Johnny Hallyday, mais c'est un très beau titre.
Marc Lambron, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour publier comme ça, 20 ans après, un journal en l'état, non retouché, comme une cassette, dites-vous, que l'on glisse dans le magnétophone.
Oui.
Quelle drôle d'idée.
Non retouché, oui, ça c'est vraiment la condition, c'est-à-dire que je ne vais pas réécrire le passé, je ne vais pas faire une uchronie, et où je ne suis pas Staline qui supprimait des visages de photos anciennes. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas publié à chaud? D'abord, sans doute, parce que c'est aussi un journal de deuil. C'est l'année de la mort de mon père. Et je crois que cet événement, la résonance qu'il portait avec lui, fait que je n'avais pas envie de le publier trop vite. Deuxièmement, je l'ai laissé dormir, en effet, pendant assez longtemps, presque deux décennies. Peut-être parce que je me disais que le temps est un bon co-auteur. C'est-à-dire que un journal, c'est par définition un genre de l'instantané, mais si vous laissez passer une certaine durée, il peut devenir un genre rétrospectif. Parce que, en effet, s'y ajoute la distance que le temps passé ménage, introduit entre une époque de notre vie et le présent, et parce qu'il y a un effet de perspective, ou un effet de patine, ou un effet de contraste, qui n'aurait pas existé si la publication avait été immédiate. Et en réalité, la paresse de l'auteur, c'est de laisser dormir un manuscrit, et le temps ajoute ce qui n'était pas au début. Et c'est pour ça que la question que vous me posez, c'est ça, au fond, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé ?
Je veux dire que lorsque je vous posais la question, ce qui est assez sidérant, c'est que lorsqu'on prononce ce chiffre, 1997, on a l'impression que c'est hier, que la France est la même, que le climat général est le même. Spontanément, on se dit, tiens, on est encore dans la même période. En se replongeant dans votre ouvrage, on découvre à quel point ce n'est pas le cas. Mon Dieu, que la France a changé. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu.
Alors vous me direz, parce que moi j'ai un sentiment assez partagé à la relecture, quand j'ai exhumé le texte. Ce qui a changé, à mon avis, et considérablement, c'est qu'en 97, on n'est pas encore dans un monde numérisé. Le temps n'est pas encore tout à fait analogique. Alors certes, il y a déjà des téléphones portables, mais on s'en étonne un peu. Ce ne sont que des téléphones. Donc si on fait des photos, on a un appareil photo. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il y a un certain narcissisme, à mon avis, qui n'est pas encore là. Un narcissisme qui passe par Instagram, qui passe par le tweet, qui passe par le selfie. Toutes ces façons de devenir les reporters de soi-même et de porter à la connaissance des tiers nos vies passionnantes. Je crois qu'à l'époque, il y a peut-être plus de modestie que l'ère de l'ego est déjà là, mais que l'inflation n'a pas encore eu lieu dans les proportions qui sont celles d'aujourd'hui. On voit d'ailleurs à un moment, j'achète un fax. C'est dire où nous sommes. C'est un monde où on compte en francs. L'euro n'est pas encore là. On est avant les attentats de 2001 à New York. C'est une période relativement prospère. On s'accorde maintenant à penser que, économiquement, l'arrivée de Lionel Jospin en 97 aux affaires a coïncidé avec les années qui ont suivi et qui ont été plutôt porteuses économiquement. Néanmoins, on voit déjà le Front National à Vitrolles, on voit des troubles dans les banlieues, on voit quelques émirs salafistes qui pointent le nez.
Il y a eu des attentats un peu avant.
Il y a eu des attentats en 95. Donc tout se dispose, au fond, le décor de notre tragédie actuelle se met en place. Ça, c'est pour ce qui a changé. À mon avis, ce qui n'a pas changé, d'abord, c'est que nous sommes et nous restons depuis 1945, dans une société de paix civile. Autrement dit, il n'y a pas de guerre. Alors, ça a une conséquence, c'est que quand vous regardez les noms propres, quand vous faites le tour onomastique du journal, vous apercevez que, certes, les plus chenus, les plus anciens ont disparu. Ou, en effet, qu'il y a eu des drames. Je rapporte à un moment un dialogue avec Wolinski, par exemple. Georges Wolinski, 97, lors d'une projection à RTL. Bon. Mais paix civile, ça veut dire pas de saignée, et ça veut dire des vies qui rallongent, avec les progrès de la médecine. Ce qui fait que une partie du personnel de ce journal, que ce soit dans le monde intellectuel, que ce soit dans le monde politique, est toujours là. C'est-à-dire que vous voyez apparaître, alors ils ont 20 ans de moins. Et là, on ne croirait pas que 20 ans ont passé. Pas aussi bien Bernard-Henri Lévy que Emmanuel Todd, que Pascal Bruckner, que Frédéric Becbédé ou Yann Moix, pour parler des plus jeunes à l'époque. Ce sont des figures que l'on retrouve dans le débat public aujourd'hui. Alors, soit il y a peu de talent en France et ce sont toujours les mêmes qui apparaissent, soit les médias manquent d'imagination et une fois qu'ils tiennent de bons clients, ils les exploitent avec le consentement des intéressés. Donc on a changé de monde, oui et non. Si vous voulez, je pense que si j'avais publié en 1965 un journal de l'année 1945, là, je pense que oui, on aurait vu la césure, on aurait vu la fracture, parce que l'immédiat après-guerre et 65, c'est-à-dire au milieu des Trente Glorieuses, là, on a changé d'univers. Là, j'ai plutôt l'impression d'une île, une sorte d'île ou de continent, de Pangée, enfin de continent qui est en train de se fragmenter. Enfin, il y a encore aujourd'hui, dans cet archipel, des îles qui tiennent encore pour combien de temps, on ne sait pas, mais je ne suis pas si frappé, quand même, je suis plutôt frappé par la continuité aussi, en réalité.
Je parlais de changement ou de rupture, car certes, une partie du personnel est encore en place, il y a aussi de glorieux disparus. Hein. Vous évoquez Jean Edernalier, Jean-François Revel, pas rien. Mais surtout, en termes de climat, on a l'impression d'être au cœur de la mondialisation heureuse, si vous voulez. D'ailleurs, une des figures qui accompagne le livre, c'est Alain Mack, qui avait forgé cette expression, avait fait le titre d'un livre. De ce point de vue-là, j'ai l'impression d'un abîme qui nous sépare de ces années. L'autre aspect, c'est que ces années 90, c'est la fin de l'ère Mitterrand. Mm-hmm. Mais on est encore un petit peu dans les fastes mitterrandiens, dans cette brillance parisienne qui, me semble-t-il, n'est plus du tout en odeur de sainteté aujourd'hui.
Bah, ce sont les obsèques du pharaon. Donc, elles durent pendant des mois. Donc, on sent bien la traînée, le côté mastaba, il y a des, je crois qu'il y a des civilisations où les deuils duraient des années. Donc, l'ombre de Mitterrand est là. D'ailleurs, elle est pour moi dans cette année 97 présente parce que l'ouvrage que je publiais cette année-là, 1941, qui est, pour aller vite, l'histoire d'un jeune espion de la France libre qui s'introduit au cœur du pouvoir vichiste, avait beaucoup à voir avec la perplexité qu'avait déclenché chez moi le livre de Pierre Péan, la question Mitterrand. Et 1941, il y a une sorte de mise en abîme, c'est-à-dire c'est aussi un livre sur un livre, 40 ans. C'était cette question sur la représentabilité, en quelque sorte, de Vichy pour quelqu'un qui n'était pas là. Et c'était déclenché en effet par très largement par la polémique autour de François Mitterrand. Est-ce que c'est une mondialisation heureuse qui serait devenue malheureuse? On peut se poser la question. J'étais avant-hier au Cambodge, pays que je ne connaissais pas. Le Cambodge de 1975, celui des Khmers rouges, aurait-on dit que c'était un pays qui était pris dans une mondialisation heureuse? C'était un pays qui subissait un génocide. Et je me promenais dans les rues de Phnom Penh, et quoi qu'on en pense, oui, il y a mondialisation, parce que je voyais les mêmes publicités pour des marques de téléphones portables, ou pour des cours de langue, pour accéder justement à l'espéranto moderne, par exemple. Je voyais le négoce, en même temps, c'est une société qui va plutôt beaucoup mieux économiquement qu'il y a quelques années, et où les massacres n'ont plus cours. Donc, le glas, enfin, ou le traîne, le chant funèbre qui est entonné en France sur ces questions, il me semble devoir être relativisé par l'état du monde. Enfin, je trouve que nous sommes très, très égotistes en la matière. L'état du monde, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de pays démocratiques sur la planète, c'est que l'espérance de vie n'a jamais été aussi haute, c'est que l'alphabétisation, notamment des femmes, n'a jamais été plus forte. Et c'est que les pandémies sont à peu près jugulées aujourd'hui dès leur origine. Donc, il y a seulement un siècle, il n'y avait pas d'assurance sociale, il y avait la grippe espagnole ou le typhus, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas... Enfin, mesurons avec notre mémoire proche, hein, qui est celle de nos grands-parents, ce qu'a pu être la condition, d'ailleurs d'une époque où des hommes, en serrant les dents, aller mourir par centaines de milliers dans des tranchées pour un idéal national. Donc je trouve que nous sommes très doloristes quand même aujourd'hui. Autocentrés, doloristes, et pas... on manque de relativisme. On manque même de relativisme voltairien. Je crois qu'il y a autant de raisons de s'amuser ou d'ironiser que de porter le voile des veuves et d'entonner ce lamento, d'où d'ailleurs, je crois, nos compatriotes aspirent à sortir. La situation française, c'est quand même très étrange, parce que l'année dernière encore, nous avons été la première destination touristique mondiale. 83 millions de visiteurs. Et en même temps, la France est le pays au monde qui a le plus fort taux de consommation d'antidépresseurs, taux moyen, par tête d'habitant. Qu'est-ce qui fait que le pays de Cocagne, pour le reste du monde, le pays qui est le plus désiré, en tout cas comme lieu de villégiature, est habité par des déprimés chroniques? Je crois que ça fait partie de l'étrange équation française, et que si j'étais examinateur à l'ENA, c'est ce genre de questions que je poserais aux aspirants, aux fonctionnaires.
Que la mondialisation est permis, certes, à de nombreux pays de sortir de la pauvreté, c'est effectivement une certitude, et il faut certainement sortir d'une vision auto-centrée du phénomène. Toutefois, dans cette fin des années 90, vous faites, vous aussi, le témoin d'une forme de désillusion qui commence à naître. Et si vous me le permettez, je vais lire un court extrait de votre journal consacré au cadre ex-héros des années 80. Faut-il les regarder avec charité ? Ils sont floués, mais ils se sont floués tout seuls. Se souviendront-ils des années 80 ? Poussés vers les écoles de commerce par des parents qui, venus de la terre et passés par la boutique, croyaient au progrès. Les jeunes futurs cadres étaient prêts à tout piétiner. Égolâtrie, recherche du raccourci spéculatif, coup de pied dans les tibias, nipponisation des attitudes, la bouche pleine d'une neuve langue de marketing, dont les plus beaux fleurons étaient cette expression « direction des ressources humaines », comme il y a des ressources minières ou halieutiques. Ils ne s'embarrassaient pas de sollicitude alors. Les petits-fils des bofs au bon beurre avaient découvert le salut par l'entreprise. Les femmes s'y mettaient aussi, serrées dans leurs tailleurs triangulaires et turbo, les griffes ouvertes sur le vide, courant Wall Street. La vertu est lente, ceux qui veulent aller vite la négligent. Ils avaient trouvé le mépris dans le berceau de leur hâte. Les civilités se résumèrent bientôt à la récitation de fiches de salaire entre la poire et le fromage. On avait enrôlé leur grand-père dans les chantiers de jeunesse, ils couraient prendre du service à la direction du marketing, capital, nous voilà. Ah, les rudes désillusions flaubertiennes. L'éducation sentimentale en version sitcom. Le moment où ils comprirent que l'entreprise n'est pas une religion. Est-ce qu'une religion licencie ses fidèles ?
Oui, alors là, ce qui est, bon, ce petit, comment dire, une sorte de polaroïde, comme ça, de photographie. Oui, bah, quelqu'un de ma génération, il ne peut être que sensible à ça, c'est-à-dire au fait qu'au début des années 80, année boursière, année riganienne, année Bérégovois en France, il y a eu cette idée que nous pouvions tous être des rois Midas, c'est-à-dire qu'on allait changer en or ce que l'on touchait. Il y a eu l'esprit d'entreprise, il y a eu cette façon au fond que oui, une certaine mentalité boutiquière qui s'est reformulée à travers les écoles de commerce qui promettaient monts et merveilles. Et puis, on voit bien que oui, à la fin des années 90, il y a déjà cette conscience que si on a des attitudes providentialiste, presque cultuelle, religieuse vis-à-vis de l'entreprise. En principe, une religion ne licencie pas ses fidèles, comme il est écrit. Bon, ça, c'est une question qui se pose plus largement. C'est l'arbitrage, et elle se pose aujourd'hui, qu'on peut faire entre l'intérêt et la gratuité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous meut ? Est-ce que nous sommes mus et le climat depuis les années 80 tend à dire que l'argent est un marqueur de réussite sociale, ou est-ce que nous serions éventuellement anthropologiquement autre chose que des bouliers, que des machines à compter des revenus? Et moi, je crois qu'il y a eu une souffrance, peut-être encore, de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence sous-rémunérée. C'est-à-dire de tous ceux qui, dans une société, la font tenir en choisissant des métiers qui sont en gros des métiers du service public et qui correspondent d'ailleurs à des fonctions assez ancestrales dans toute civilisation, c'est-à-dire le juge, le soldat, celui qui assure le bon ordre dans la cité, et même l'homme public d'ailleurs. Moi, je trouve qu'il faut un certain esprit de vocation pour tenir justement dans cet univers où les charmeurs de serpents du marketing jouent beaucoup de flûte. Mais en même temps, il y a, on voit bien, dès 97 déjà cette forme de désillusion, et on est avant la crise de 2008, enfin le moment où les bulles spéculatives vont crever. Mais je crois que c'est une question de civilisation, et elle se pose à nous, d'ailleurs y compris dans la présente présidentielle. Moi, je suis assez frappé, j'ai été frappé, en regardant les débats de la primaire, les deux primaires, droite et gauche, de voir que maintenant, ce sont les journalistes qui se comportent comme des énarques. C'est-à-dire qu'ils posent aux hommes politiques des questions dont ils pensent qu'elles sont sérieuses, parce qu'elles appellent à un chiffrage. Et du coup, ça donnait d'ailleurs des réunions d'experts comptables affrontées. Bon, la question c'est, est-ce que la politique c'est du chiffre ou est-ce que c'est un destin ? Et la notion de programme d'ailleurs mériterait d'être interrogée, parce qu'à mon avis, évidemment qu'il faut qu'il est opportun, enfin il est même essentiel que dans un pays dans une élection démocratique, on sache pour qui ou pourquoi, plutôt, on vote. Voilà. Le programme, ça a aussi pour effet, alors en France, hein, mécaniquement, d'affaiblir l'autorité présidentielle. C'est-à-dire qu'il est toujours promis beaucoup dans une campagne, et à peu près un an après, prenez en tout cas les trois ou même les quatre derniers présidents de la République, il y a un effet de déception qui amoindrit l'attitude d'action du président. Donc, moi, je m'interroge sur cette vision programmatique de la politique. Et je crois aussi que, évidemment, la personnalité d'un candidat, surtout dans une élection présidentielle avec la Constitution de 1958, qui est quand même la rencontre d'un homme et d'un pays, il faut aussi la poser en termes de destin, et pas seulement en termes de chiffrage ou de programme.
En ces années-là, c'était différent, années 90. Je ne me souviens plus de quand date le quinquennat.
Le quinquennat, il a été appliqué pour la première fois avec Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac était élu en 95 pour un septennat, donc en 97, il est à la deuxième année de son septennat, avec cette dissolution hasardeuse qui fait qu'en réalité, il va passer 5 ans de son septennat en cohabitation. Et le quinquennat est voté sous la présidence Chirac, il est appliqué en 2002, et ça sera au bénéfice de Jacques Chirac, qui va faire un second mandat de 5 ans.
Mais qui auront avec cette rencontre d'un homme, d'un pays, une cristallisation qui donne un destin.
Vous voulez dire que Jacques Chirac n'a eu des intérêts, que des intérêts et pas de destin? Ça, je ne me prononcerai pas sur les augustes présidents de la République. Mais oui, est-ce qu'il y a une déperdition de l'autorité de la fonction? La question elle se pose. Moi, ce que je constate, c'est que la France a longtemps été un pays de politique littéraire. C'est-à-dire que les présidents qui étaient habités par ce surmoi littéraire français était dans une certaine continuité profonde ou harmonieuse avec ce pays. Et après tout, le général de Gaulle est un grand mémorialiste, le président Pompidou était normalien, composait une anthologie, citait volontiers Éluard ou Baudelaire dans ses conférences de presse. Le président Giscard d'Estaing est allé chez Bernard Pivot parler de Maupassant, un polytechnicien, un président de la République qui va parler de littérature et qui pensait qu'il était opportun de le faire. Il est aujourd'hui membre de l'Académie française. Président Mitterrand était nimbé de ses lectures, qu'elle renvoie à son origine charentaise, l'amour qu'il avait de Chardonne, mais c'était évidemment un homme de lettres, on peut dire, enfin qui avait la nostalgie rentrée de l'écrivain, qui est souvent celle des, ou qui a longtemps été celle des politiques français. Après, je crois que ça a un peu changé. Et que peut-être l'aura des présidents suivants a aussi pâti de ce qu'il n'était pas dans une continuité intérieure, charnelle, avec ce qui fait l'identité, oui, de ce pays, c'est-à-dire son histoire et des mots. Parce que la France, c'est largement un phénomène, une création du verbe. Le général de Gaulle le savait très bien, et André Malraux aussi, par exemple.
En même temps, vous prenez à plusieurs reprises la défense des énarques, de cette administration, de cette capacité, de ce système républicain aussi, de sélection, mais en lui dressant un périmètre différent de celui qu'on lui attribue habituellement. Pouvez-vous nous expliquer cela?
D'abord, je suis lyonnais. Vous savez que les Lyonnais, c'est la ville de la soie, donc on apprend à ne pas déchirer le tissu et à ne pas déchirer le tissu social. Ensuite, les Lyonnais partageraient volontiers une phrase de Nietzsche qui disait « Malheur à moi, je suis nuancé ». Parfois, on traduit « Malheur à moi, je suis nuance ». Donc, je n'aime pas le poujadisme qui s'exerce à l'encontre des énarques. Pourquoi ? D'abord, j'en suis un, mais c'est pas par corporatisme que je vais vous le dire. C'est justement parce que j'ai fait cette école, mais quelques autres, que je peux vous le dire de l'intérieur. C'est que l'ENA, qu'est-ce que c'est ? Comment devient-on énarque ? Eh bien, on devient énarque comme on devient professeur, ou comme on devient postier, c'est-à-dire en passant un concours. Et quand vous passez un concours de la République, les écrits sont anonymes, c'est-à-dire que le correcteur ne sait pas si c'est un homme, une femme, un blanc, un noir, un provincial, il ne le sait pas. Et les oraux sont appréciés collégialement, jamais par un seul. Bon, il me semble que c'est le moins mauvais système de recrutement. Et si on préfère qu'il y ait du népotisme, si on préfère qu'il y ait des systèmes de transmission héréditaires, si on préfère des bricolages où précisément les intérêts, les complicités, les collusions l'emportent sur le mérite, alors il faut le dire. Mais les énarques, quel que soit ensuite les destins d'un certain nombre d'entre eux, qui ont attiré sur leur tête l'ire de nos populations. D'abord, si vous regardez la démographie des énarques, vous apercevez qu'il y a 85%, peut-être même 90%, qui servent de façon anonyme, on peut dire, dans les cadres de l'État, qu'ils soient préfets, qu'ils soient dans les tribunaux administratifs, qu'ils soient dans les ministères, qu'ils soient dans les chambres régionales des comptes. Ils constituent, bon an, mal an, l'armature administrative de ce pays. Deuxièmement, le taux de corruption est infime dans l'administration française. La chose est remarquée. Il y a parfois des problèmes avec les politiques. Il est exceptionnel qu'il y en ait avec des fonctionnaires. Bon, ça les destine donc, tous ces défauts les destinent donc à être des espèces de boucs émissaires. Et il y a une façon de faire le procès des énarques, ça je pourrais le faire, mais c'est sûrement pas sur ce mode poujadiste.
Ce que vous leur reprochez, c'est ensuite d'avoir une sorte de manque de souffle, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour être des serviteurs de l'État, des grands commis de l'État, mais en mutation. En revanche, lorsqu'ils finissent par grignoter, coloniser la sphère politique elle-même, cette rencontre dont vous parliez, et dont on sent les derniers feux dans ces années 90, et en revanche, quelque peu dramatique, on en voit probablement les conséquences aujourd'hui, non ?
C'est-à-dire que la façon de faire de la politique, mais je crois que ça se limite pas à ceux qui viennent de l'ENA, depuis quelques décennies maintenant, ça suppose deux choses. Premièrement, de prendre le sillage d'un homme politique installé. Vous regardez les grandes carrières, que ce soit à droite ou à gauche, il y a toujours un protecteur qui a fait monter son pupille. Enfin, que ce soit Alain Juppé sous Jacques Chirac, Laurent Fabius sous François Mitterrand, pour ne prendre que deux exemples illustres. Donc, il faut, comme on dit dans le cyclisme, sucer la roue d'un personnage éminent qui, le moment venu, mais ça peut prendre des années, vous passera le témoin, ou vous proposera le sceptre. Deuxièmement, ça suppose aussi, les partis étant ce qu'ils sont, d'adhérer à ce qu'on appelle maintenant des éléments de langage, en tout cas d'apprendre la grammaire politique, qui est souvent une langue de bois du parti que l'on a épousé. Donc en effet, je crois que ça a des conséquences qui sont constatables aujourd'hui. D'abord, c'est la lenteur du renouvellement de la classe politique, mais là, on est en train d'assister à une sorte de purge assez brutale à travers les primaires d'ores et déjà. Et deuxièmement, on voit bien que à droite comme à gauche, il y a une certaine difficulté, on le voyait bien pendant les débats des primaires, à sortir de la grammaire politique. C'est difficile de parler au-delà de ce qui vous a été dogmatiquement inculqué. D'où l'intérêt aussi de ce qui se passe en ce moment, je pense, avec quelqu'un comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce qui distingue Macron, quoi qu'on en pense, c'est qu'il ne s'est pas attardé dans l'ombre d'un protecteur. Il a été coopté par François Hollande et il a été ministre. Il n'a pas passé 15 ans à attendre son tour. Et deuxièmement, on voit bien que n'étant pas membre d'un parti, il est assez libre vis-à-vis de la rhétorique de droite ou de gauche. Après, on peut contester ses hybridations, on peut trouver que c'est un ovni ou un ludion. Mais enfin, il y a une tentative qui dit quelque chose quand même de l'état du paysage politique français. Et quand on a 20% de population derrière soi, c'est pas indifférent pour quelqu'un qui n'a pas de parti, qui était inconnu il y a 3 ans.
À plusieurs reprises, vous vous montrez agacé par déjà parce que vous nommez le sport de poujadisme semi bien élevé,
cultivé, je dis oui.
Oui, semi cultivé.
Oui. Oui, bah ça, c'est encore une autre forme de Poujadips, qui rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que... Mais ça, je parle d'expérience, pardon, alors là, c'est un peu pro-domo, mais moi, j'ai commencé à publier des romans, bon, j'avais 30 ans, j'étais assez candide, enfin, je ne m'attendais à rien, je ne connaissais pas la société littéraire. Or, la littérature, ça n'est pas la vie littéraire. Et ce que j'ai découvert à mon détriment, c'est que précisément... une bonne partie de la critique s'attardait moins sur ce que je pouvais écrire que sur ce que je pouvais incarner. Et notamment, il y a eu à l'époque, maintenant ça leur a passé, mais un énarque qui écrit ou des énarques qui écrivent, nous étions quelques-uns. Et on voyait bien que nous étions a priori promis au bûcher sur ce seul signifiant, sur cette seule banderole qui était ajouté au-dessus de nos têtes, alors même que, précisément, écrire, bah, ça suppose une page blanche ou un écran. Enfin, il n'y a pas plus individuel. Enfin, on écrit sans béquille, on écrit sans prothèse. C'est un exercice qui remet chacun à égalité. C'est un peu ça que j'appelle le poujadisme cultivé. C'est une forme de bien-pensance qui, au fond... à force de vouloir embrasser des critiques mais qui sont assez convenues, s'exempte du devoir voltairien de distance ou d'autocritique. Donc oui, il y a des petits boucs émissaires, et il m'est parfois arrivé de porter les cornes du bouc, mais on s'en remet.
Dans un passage, vous donnez quelques... Le mot est de vous, quelques trucs pour être un véritable écrivain du jour.
Oui.
C'est un autre registre, mais enfin, comme c'est hilarant, si vous me permettez, je vais lire ces quelques trucs.
C'était il y a 20 ans, maintenant, c'est plus du tout comme ça.
Ah, bah écoutez, vous nous donnerez les nouveaux trucs, alors.
Voilà.
Une mise à jour. Donc, les trucs pour être écrivain du jour en 1997.
Oui.
S'installer à la campagne et cultiver des allures de chevrier. Sous bénéfice de retraite créative, s'abandonner à une indolence qui permettra de dire, quand le livre paraîtra, après 4 ans de silence, X sort de sa réserve avec un livre majeur, lequel compte 134 pages gros caractères. Ne pas forcer son talent, ce qui évitera la haine qui s'attache au style. Si l'on est alcoolique, faire passer pour une sublime abruption le fait que l'on n'arrive pas à finir ses livres. On parlera d'écriture blanche, de minimalisme. Lisez Thomas Bernhardt et les Fioretti pour faire oublier que vous n'avez jamais lu Champfort et Crébillon fils. Utilisez vos notes prises en hippocagne sous les tropes de Dumarsais pour donner à l'ensemble une touche archaïque, chic et polonesque. 7. Afficher un air de mélancolie hivernale. 8. Ne riez jamais. 9. Souvenez-vous des airs inspirés et nordiques des curés de votre enfance. C'est à cela qu'il faut ressembler. Si vous n'avez pas eu d'enfance malheureuse, inventez-la. Les curés existent toujours, on peut les observer. 11. Haïssez la vie, elle ne vous rendra pas.
Oui, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voyez...
Ça a vraiment changé?
Ça n'a pas tellement changé.
Ah non, fait, finalement,
c'est
non.
Ça, hein. C'est ça, hein. Oui. Voyez, tout ce qu'il faut affronter, tous les politburos mentaux qu'il faut piétiner pour arriver à écrire un livre. Oui, ça s'appelle un répertoire de préjugés, en somme. Ou des images favorables. Enfin, faut toujours faire la Barthes faisait comme ça la sémiologie de la pose de l'écrivain, de la pose de l'acteur. Bon, ben, il y a des figures, il y a des tropes, en effet, qui sont pas des figures de style, qui sont des figures de vie, en quelque sorte, qui sont des poses utiles ou profitables. Alors, quand on les connaît un peu, si on les décrypte un tant soit peu, on se vaccine contre ces poses, mais ça vous facilite pas la vie.
Le plus cruel, c'est le dernier. Hein. Et il sait la vie, elle ne le rendra pas.
Ben, retiens la vie, vous voyez, le titre que vous m'avez suggéré tout à l'heure, c'est un antidote à cette maxime, à ce onzième commandement.
En même temps, on a l'impression que dans ces années-là, on s'amusait plus qu'aujourd'hui, quand même. Hein. Je reviens à cet effet de contraste.
Alors ça dépend, parce que moi je pense que l'amusement c'est auto-immune, enfin c'est contracyclique, c'est-à-dire qu'on le transporte avec soi. Donc peut-être sans doute on est dans une époque où puisque les pleureuses sont de sortie, il faut peut-être s'inventer des vies clandestines, des vies plurielles, des vies cachées, oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je pense qu'heureusement, notre psyché n'est quand même pas totalement tributaire de l'air du temps. Donc il est libre, on est libre de s'inventer des fantaisies, des fêtes, et de vivre sans forcément couper ses radars ou ses antennes. Mais une fois encore, il y a quand même la leçon voltairienne, quoi, qui est que dans il y a les tremblements de terre de Lisbonne. D'abord, les personnages courent encore, on n'est pas obligé de finir sous les gravats. Tout ça est aussi une vaste comédie, tout de même, ou une tragicomédie. Mais heureusement, nous ne sommes pas voués à être à l'unisson de la tristesse, même quand elle est plébiscitée par nos contemporains. Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que les Français soient si candidats que ça à la tristesse. Ils aimeraient quand même bien que ça aille mieux.
Quand on a l'impression que l'année 97 était plus drôle que l'année 2017, en fait, c'est parce qu'elle est vue à travers vos yeux, alors.
Ça dépend. Parce que moi, je suis en train de tenir mon journal, donc depuis un mois et demi. Et il y a des éléments, je dirais presque picaresques dans ce qui se passe en ce moment. Tous les jours, il y a des choses assez drôles, assez étonnantes, assez peu convenues, justement. Notamment dans la campagne présidentielle française. Qui fait que j'ai l'impression qu'il y a les plaques tectoniques sont en train de bouger. Et l'histoire n'est certainement pas finie. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui a été fait il y a quelques semaines, et les anticipations des Français, étonnamment, sont bonnes. Ils sont plus optimistes pour l'année qui vient qu'ils l'ont été pour les années précédentes. Voilà. Donc. Nous allons chanter, vivre dans la liesse en 2017, n'en doutons pas.
Écoutez, j'en reste abasourdi.
Vous allez voir.
On continue.
Oui,
je vais aller couper. La liesse en 2017, certainement.
Mais oui.
Quant à... J'en reste tellement abasourdi, je suis désolé, j'ai pas mal fait.
Non, mais est-ce que les massacres, par exemple, des guerres révolutionnaires, je parle du XVIIIe siècle, ont empêché Mozart d'écrire ce qu'il avait à écrire? Bon, non. Donc, je pense qu'il y a des Arcadies, je pense qu'il y a des paradis possibles. Et in Arcadia ego, disait-on en latin, où les hippies disaient paradise now. Si on décrète que le paradis c'est maintenant, il peut advenir. Donc, une fois encore, on n'est pas obligé d'être l'otage
de la gravité ambiante.
Bah, d'une sorte de gravité. En même temps, je trouve que c'est une gravité quand même assez tonique en ce moment. Moi, je suis pas pessimiste sur ce qui arrive.
Que voyez-vous venir alors?
Ah ben j'en sais rien, je ne suis pas devin, mais je pense quand même qu'il y a des il y a des systèmes qui sont assez oxydés et il y a des érosions qui sont en cours, mais par exemple politiquement, en effet, c'est pas tout à fait joyeux ce qui se passe mondialement en ce moment. En tout cas, ce qu'on voit, c'est, on peut mettre ça entre guillemets, mais une montée des populismes dans des pays civilisés. Que ça soit le Brexit, que ça soit Trump, etc. Bon, bah, je trouve que dans la présidentielle française, pour l'heure, alors certes, nous avons Madame Le Pen, qui donc dans un système de monarchie héréditaire, qui pourrait ressembler à certains de ces... D'ailleurs, elle les rencontre, ou elle essaie de les rencontrer. Mais je trouve que le fait que nommons-les, enfin, que des candidats comme Emmanuel Macron ou François Fillon soient en lice... ce ne sont pas des beaufs internationaux, si j'ose dire. Ils restent inscrits dans le cercle de la raison et ils ont des surmois français qui les prémunissent quand même contre certains écarts. Donc je ne crois pas que nous allons élire Berlusconi. Je ne sais pas qui sera le président, mais je ne pense pas que nous allons élire M. Berlusconi ou M. Trump. Voilà, et que l'exception française, elle porte aussi quand même sur une certaine possibilité de raffinement, en tout cas, ou de civilisation, on peut l'espérer.
Parmi les récents perdants de ce jeu de chamboule tout, qu'ont été les primaires, il y a bien sûr Alain Juppé. Vous en faites un portrait finalement assez attendri, en rupture avec ce qu'on dit habituellement du personnage.
Oui, vous voyez que j'ai un grand cœur, parce que si je suis attendri par Alain Juppé, vous voyez que mes capacités d'empathie sont considérables. Mais non, mais oui, je rencontre en effet en 97, et ce que je crois décrypter chez Alain Juppé, c'est quelqu'un qui a censuré précisément ses affects, parce que ses affects renvoyaient à une origine, et que peut-être, de cette origine, une certaine caste voulait lui faire honte. Où il a eu le sentiment, il me l'avait dit une fois, d'être toujours le mouton noir, c'est-à-dire qu'il était un normal sup gaulliste à l'époque du maoïsme universitaire. Il s'est retrouvé au RPR, où au fond, il aurait pu finalement sympathiser avec le côté populaire du mouvement, mais je crois que ça ne lui plaisait pas d'être confondu avec Charles Pasqua, d'où une sorte de complexe de supériorité qui se traduit par le fait de vouloir devenir infaillible. On le surnommait Amstrad, hein, qui est le nom d'un ordinateur, et sans doute c'était un être clivé, Juppé, et ça lui a coûté assez cher, mais aussi parce qu'il ne jugeait pas digne de déférer un certain nombre de postures un peu démagogues qui sont demandées aujourd'hui aux hommes politiques. Donc il y a une sorte de drame de cet homme qui s'est en quelque sorte peut-être automutilé et qui a eu le sentiment ensuite qu'il ne pouvait pas être compris puisqu'il ne déclarait pas grand-chose de ce qu'il pouvait être et qui aurait peut-être attiré plus de sympathie qu'il en a attiré.
Il y avait des cartes dans son jeu qu'il n'utilisait pas.
Notamment la carte du mérite, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, mais enfin bon, il m'a parlé de son père, mais avec pudeur, mais je crois qu'il vient d'un milieu très modeste, comme on dit, et que le côté, justement, enfant de la République, enfant du mérite, il aurait pu le mettre en avant plutôt que de se blinder dans cette espèce de mythe d'omnicompétence qui est celui des inspecteurs des finances en France. Voilà, mais enfin, en même temps, chacun est comptable de ce qu'il choisit d'être. Donc, vae victis, malheur au vaincu.
À son propos et de cette rupture avec ses origines populaires, vous écrivez ceci. Je crois qu'il y a dans son impopularité comme une vengeance de ceux qu'il a quittés. Il ne veut plus les connaître, ils ne le reconnaissent donc pas.
Ben, c'est ce que je viens de dire, à peu près, oui.
Lorsque, j'imagine que vous avez quand même relu les épreuves du livre, vous êtes replongé dans ce journal et donc dans cette année 1997, s'agissant de ces aspects publics, qu'est-ce qui vous étreint dans cette année 97? Quels sont les sentiments que vous inspirent? De la mélancolie?
Non, pas de mélancolie. Je vais vous dire, alors quand j'ai relu, ce que j'ai d'abord vu, c'est le texte presque qui faisait écran aux événements, c'est-à-dire que ça m'a donné peut-être une notion plus fine de ce que c'est qu'un journal. Parce qu'après tout, un journal, c'est un genre littéraire. C'est comme la poésie, comme le roman, c'est un genre. Et il y a deux ou trois particularités qu'on éprouve quand on s'y livre de façon délibérée, ce que j'avais fait cette année-là. D'abord, c'est que c'est une œuvre ouverte. C'est par définition le genre de l'aléa. C'est-à-dire que vous commencez à écrire au premier de l'an et vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc vous êtes en situation d'ouverture par rapport à des événements qui vont diriger ce que vous pourrez en écrire. Donc c'est le contraire d'un travail concerté. La deuxième chose qu'on dit assez rarement, c'est qu'un diariste, c'est quelqu'un qui vit deux fois, qui existe dans un miroir. C'est-à-dire que, mettons, vous allez voir un film, vous allez à un dîner, vous passez 3 heures avec des amis, et puis ensuite vous rentrez chez vous et vous passez 3 quarts d'heure ou 1 heure à écrire, à raconter le dîner. Donc tout est double, tout est reflété. Il y a à la fois la chose vécue et la chose immédiatement écrite. Or, les journées n'ont que 24 heures. Donc il y a une sorte de schizophrénie heureuse dans le fait de tenir un journal et de vivre chaque chose, enfin en tout cas chaque chose que vous retenez dans votre journal, vous la vivez. On ne vit que deux fois, comme chez James Bond, mais vraiment deux fois.
C'est peut-être ça la recette du bonheur que vous venez de livrer. Il faut tenir un journal, mettre à distance les événements, en même temps s'y plonger pour y saisir ce qu'ils peuvent avoir de cocasse, d'amusant, d'émouvant. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons en lisant votre journal de l'année 1997, 40 ans. Tiens, j'aurais pu vous interroger sur l'âge de 40 ans.
l'âge de 40 ans.
Oui, c'est réellement une rupture, on n'a pas le sentiment quand on les lit finalement.
Non, c'est-à-dire que c'est l'âge auquel, à l'époque de Balzac, on pensait qu'on était vieux quand on n'était pas mort. On voit même ça d'ailleurs, dans les, si vous écoutez par exemple les chansons de Serge Reggiani, dont certaines ont été écrites par notre, les paroles par mon confrère Jean-Loup Dabadie, on voit très bien que vers 1969-70, la quarantaine, c'était un cap, c'était une épreuve. On commençait à penser à la maison de Provence, en Provence, on allait se retirer, etc. Donc il y avait toute une, un drame de la quarantaine. Mais alors, comme la médecine a fait des progrès, et comme l'infantilisme a progressé, c'est-à-dire comme nous sommes des Peter Pan, il est évident que il y a presque 10 ou 15 ans maintenant, enfin le sentiment qu'on pouvait avoir à 40 ans en 70, je dirais qu'on l'a peut-être à 60 maintenant, à la limite. Et moi, je vais vous dire, le grand événement de mon année 2017, c'est que je suis allé retirer une carte senior l'autre jour. J'y ai droit. Eh bien, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Et comme disait Aragon, à aucun moment de ma vie, je n'ai eu l'âge de mon état civil. Donc je pense qu'il peut y avoir des printemps dans les hivers d'une vie et qu'il peut y avoir à certains égards, on peut être peut-être parfois plus vieux à 35 ans qu'on ne va l'être à 50 ou à 60. Je pense que le thermostat intérieur n'est pas forcément réglé sur la biologie. Après, comme disait Staline, c'est la mort qui gagne à la fin, c'est-à-dire que la biologie nous rattrape. Mais là aussi, je crois que nous avons ce luxe que n'avaient pas probablement nos ancêtres proches, de se promener ou de pouvoir nous promener dans nos vies, tant qu'on est en bonne santé en tout cas, comme des voyageurs internes du temps, avec une machine intérieure à la Wells, comme ça, qui nous permet de nous promener dans notre propre temps.
En tout cas, grâce à votre ouvrage, on peut se promener dans le temps, et on peut même vivre une deuxième fois cette année 1997, à travers vos yeux. Elle en a du coup des charmes qu'on ne lui avait pas remarqués à l'époque. J'incite donc tous nos auditeurs à s'y plonger pour le plaisir de cheminer avec vous au fil de cette année pour redécouvrir la jeunesse de personnages publics encore influents aujourd'hui, mais aussi de grands disparus. J'aurais voulu qu'on parle de Jean Dernier, mais nous n'avons plus le temps. J'invite donc nos auditeurs à se plonger dans votre journal 40 ans par Marc Lambron aux éditions Grasset pour vivre une deuxième fois cette année. Merci.
Merci à vous. Thank you.